en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Je suis extrêmement heureux aujourd'hui de recevoir quelqu'un que vous connaissez, bien entendu, deux personnes que vous connaissez, notamment le professeur Jean Bastier, qui est le président de la Société de Géographie, des associations, une des sociétés les plus anciennes en France et extrêmement appréciées dans le monde. Et je reçois aussi quelqu'un de très intéressant, qui est un géographe et qui s'appelle le professeur Monsieur Yves Lacoste. Et Yves Lacoste, qui a bien connu Pierre-Georges, Jean Bastier a bien connu Pierre-Georges aussi, et nous allons justement avec eux aujourd'hui parler de Pierre-Georges. Je rappelle que Yves Lacoste est le patron, le directeur d'une revue extrêmement importante qui s'appelle Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, qui existe depuis 1976, qui marche très bien, et un des derniers numéros, celui du troisième trimestre 2007 que j'ai sous les yeux, s'appelle Géopolitique de la langue française. C'est une revue passionnante. Chers amis, donc nous recevons le professeur Jean Bastier, Yves Lacoste, et je vais tout d'abord de donner la parole au professeur Bastier. Alors, Pierre-Georges, essayons de le situer un peu et essayons de faire un peu un historique de Pierre-Georges dans la géographie française.
Alors, Pierre-Georges est un géographe qui est né en 1909, que nous avons eu le regret de perdre il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, et qui a été un des grands géographes français connus dans le monde. Je peux dire que durant la seconde moitié du XXe siècle, les deux géographes les plus connus, au moins parmi le public de langue française et même de tous les pays et régions du monde, ont été Pierre-Georges et Jean Gottman. Pierre-Georges a été professeur à la Sorbonne pendant très longtemps. Jean Gottman a fait une carrière surtout internationale, mais c'était un géographe de langue française, lui aussi. Et Pierre-Georges a une stature que certainement les auditeurs vont reconnaître aujourd'hui.
Au fond, je m'adresse à Yves Lacoste. Au fond, si on regarde un peu la géographie française et la géographie mondiale à partir du 19e siècle, la France reste encore, et nous allons y revenir, reste encore vraiment tout à fait, je dirais peut-être pas dominante, mais tout à fait au sommet, si vous voulez, des travaux géographiques dans le monde. C'est un peu l'impression que nous avons, non ?
Pour ce qui est des orientations fondamentales de ce savoir, c'est j'emploie le terme de savoir parce que c'est un rassemblement de sciences, voyez-vous. Et pendant longtemps, les géographes se sont préoccupés de savoir comment légitimer épistémologiquement des morceaux de géographie très proches de la géologie, de la climatologie, de la démographie, de la sociologie, de la science des religions, etc. Vous voyez, la géographie, c'est une drôle d'affaire, hein. Et par conséquent, la géographie française, dans ce domaine-là, en considérant que tous les phénomènes au rapport à l'espace,
bien sûr,
dimension spatiale, c'est la seule à l'heure actuelle à tenir fondamentalement cette orientation. Elle n'est pas la première, hein, historiquement. C'est d'abord la géographie allemande qui démarre, je dirais, 50 ans avant la géographie française, au plan universitaire.
À 50 ans, hein. Ah oui, au plan universitaire. Pas dans le domaine de l'exploration du terrain.
Vous avez eu la gentillesse de citer Hérodote, que je considère comme un très grand historien, le premier des très grands historiens grecs, mais aussi le premier très grand géographe, et c'est il y a 25 siècles. Et la géographie démarre il y a 25 siècles avec aussi bien ces dimensions de géographie physique. C'est Hérodote qui invente le mot delta lorsqu'il est en Égypte, mais il n'a pas vu de carte, mais il déduit, bon, qui le mot méandre, voyez-vous, et qui fait aussi bien, qui écrit l'Égypte est un don du Nil,
ah, oui.
Avec
ah,
la
oui.
concentration. Bon, vous voyez, ça, mais dans cette histoire de la géographie, qui est un des premiers savoirs fondamentaux, il faut mettre ensuite, ça veut pas dire qu'elle ait une position dominante, in fine, mais la géographie universitaire et scolaire.
Qui Donc elle démarre au 19e siècle.
Au 19e siècle. Il y a eu de très grands géographes auparavant,
oui,
hein,
oui.
Mais c'est en Prusse, à Berlin, que les dirigeants de cet État décident d'enseigner de la géographie aux enfants des écoles, avec leurs instituteurs.
Et donc la géographie française universitaire démarre quand alors?
Elle démarre, on pourrait presque la dater exactement...
1870,
en,
non?
Après le ouais. désastre de 1870, ouais. lorsque les Français, étant conscients, mais ça nous entraînerait loin, ce serait toute une histoire oui, à raconter, oui. que l'enseignement de la géographie en Allemagne a été un des facteurs de la victoire de la Prusse. Hein. Bon, ça s'est été débattu à notre Chambre des députés, moi.
Oui, d'accord.
Bon. Ils se disent, les Prussiens vont créer une chaire de géographie à Strasbourg, puisqu'ils viennent d'annexer l'Alsace, et on va en créer une à Nancy.
Oui,
et
d'accord.
le premier titulaire de cette chaire de géographie à Nancy, c'est ce qui est considéré comme le père de l'école géographique française, c'est Vidal de Lablache,
ah,
qui
oui.
ensuite viendra, ah, oui. Ensuite dirigera l'école normale supérieure. Et ensuite,
on considère donc Vidal de Lablache comme le père oui. de la géographie française.
À une époque, oui. vous m'auriez posé la question, j'aurais tiqué. Je vous aurais dit oui, mais il laisse un domaine entier de la géographie, ce que j'appelle aujourd'hui la géopolitique, de côté. Et en fait, Vidal de Lablache va en 1916, hein, publier un livre qu'hélas, la plupart des géographes ignore ou ont passé sous silence, qui est la France de l'Est, et où Vidal de Lablache traite de l'Alsace et de la Lorraine occupées, en partant de cette idée que, oui, d'accord, ces gens ne parlent pas français pour la plupart. Et je pense que ce livre a été écrit à l'intention du président des États-Unis, Wilson, qui avait dit, en cas de victoire des Alliés, il faut faire un référendum pour savoir si l'Alsace et la Lorraine doivent être rattachées à la France. Et Vidal a couronné son œuvre, mais hélas, c'est un couronnement qui est passé sous silence, en expliquant pourquoi les Alsaciens et les Lorrains doivent faire partie de la nation, considérée comme faisant partie de la nation française. Et il dit, c'est eux qui ont été aux avant-postes de la défense de la France en 1792, au moment de la Révolution. Et il rappelle que c'est à Strasbourg, hein, que ce qu'on appellera la Marseillaise a été chantée pour la première fois. Eh bien, ça, je trouve ah oui, que c'est quelque chose d'extraordinaire.
On ne le oui. sait pas assez.
On ne le sait pas assez.
Et
vous voyez, il y a tout un enjeu dans la géographie, qui est ce que j'appelle l'enjeu géopolitique, mais c'est pas du
et
tout...
Et d'où un peu cette formule de celui qui a écrit le livre, la géographie, c'est pour faire la guerre.
La géographie, ça sert d'abord...
Ça sert d'abord à faire la guerre.
Et puisque nous parlons de Pierre-Georges en ce moment, que j'ai connu très jeune et qui m'a apporté beaucoup quand j'étais encore au collège, au lycée, hein, ce titre, je dois dire, l'a révulsé. Parce que Pierre-Georges était un homme de... de très soucieux des convenances, etc. Et que un de ses disciples commette un ouvrage qui a fait scandale à l'époque, qui est devenu tout à fait classique, ayant ce titre un peu révulsif. Et pendant 15 ans, je le dis et très simplement et affectueusement, j'ai été proscrit.
Vous étiez proscrit, il ne voulait plus vous voir.
Il n'a pas dit qu'il ne voulait plus vous voir.
Non, mais en fait, c'était...
Et puis, les 10 dernières années de sa vie, j'ai eu la chance, le bonheur, qu'on se retrouve. On ne s'est pas réconcilié parce qu'on ne s'était pas brouillé. Hein. Mais ce qui m'a permis de revenir avec lui sur l'ensemble de son œuvre.
Si je reviens un instant avec Jean Bastier, quel vous semble être, cher président de la Société de Géographie, il ne faut pas l'oublier, vous êtes le président de la Société de Géographie, Quels vous semblent être les moments forts de la vie de Pierre Georges? Quels sont ces vraiment les moments importants pour le rayonnement? Est-ce que vous me disiez tout à l'heure, lorsque nous évoquions Pierre Georges, que ça, il a été avec, je crois, un autre géographe, mais enfin qui vivait à l'étranger, il a été de 1940 à 1980, le plus grand géographe français d'abord.
Français connu dans le monde.
Connu dans le monde.
Dans le monde. D'abord parce que c'est celui qui a le plus publié.
Ah, énormément publié.
N'oubliez pas qu'il avait une
et
puissance.
Des petits livres,
une centaine de livres. Hein,
beaucoup de que sais-je, oui, qui ont eu une influence considérable.
Alors, j'ai lu 24
que sais-je. Oui, 24 que sais-je au moins. Il avait une puissance de travail considérable. D'abord, il faut insister sur
donc
ce...
sur la puissance de travail.
Puissance de travail énorme, énorme. Imagine, parce qu'il faisait des cours non seulement à la Sorbonne, mais à Sciences Po Paris, à Sciences Po Grenoble. Il allait toutes les semaines à Grenoble, aussi au Sciences Po. Il faisait des cours dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, des conférences. Il était invité. Il a été docteur honoris causa d'une quinzaine d'universités, peut-être à travers le monde,
oui, donc
dans
une,
tous les pays.
Un rayonnement. Dans,
et en même temps, il publiait énormément. Il était capable de faire un que sais-je en un mois. Bon, il en a publié.
Il devait être un peu aidé quand même.
Non, mais vous savez, un conseil, c'est pas très long, un conseil. Vous savez, mais enfin, il faut le faire.
Quel est l'ouvrage qui l'a fait vraiment connaître un peu partout?
Moi, je dirais.
Vous diriez, alors Yves Lacoste.
Je dirais, c'est l'introduction géographique à l'étude de la population dans le monde.
Ah oui, oui.
Qui est un livre.
Quelle année ça?
Je crois que c'est 1960. 55, 60.
Oui, dans les 50.
Dans les
50.
Pour vous, c'est le livre
qui se fait dans les publications de l'Institut national d'études démographiques.
C'est ça. Hein?
Voilà, 51, vous voyez.
51, dirigé
et qui marque le lien que Pierre-Georges a entretenu avec ce grand démographe qui a été Alfred Sauvy, qui écrivait dans ce qu'on appellera plus tard le Nouvel Obs, un billet chaque semaine. Et dans ces billets, un jour est apparu le mot tiers-monde. En 1900.
Il était très lié à Alfred Sauvy.
Il était très lié à Alfred Sauvy. Et ce livre.
Qui est un des très grands. Le très grand démographe.
Le très grand démographe. Et ce livre, l'introduction géographique à l'étude de la géographie dans le monde, est un ouvrage, au point de vue de la méthode, qui n'est pas encombré de statistiques, mais qui se lit très bien.
Uniquement des idées.
C'est un très beau livre. Et moi, je me rappelle, j'étais étudiant à ce moment-là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça, c'est un sacré livre.
C'est un sacré livre.
L'autre grand livre que je dirais, c'est 1965, La géographie active.
Ah oui.
Et ça, c'est un livre très important, parce que Pierre Georges est au fait de sa vision de la géographie du monde. Et là, il s'engage dans l'idée que les géographes ont une responsabilité civique considérable et que c'est à eux de suggérer les prises de précaution face à un certain nombre de risques. On ne parle pas encore de risques climatiques, mais c'est implicite qu'ils ont à jouer un rôle important dans tout ce qui est l'aménagement du territoire, etc. etc.
Et, donc, c'est vraiment, il a eu un côté précurseur.
C'est un très grand livre. Pierre Georges, qui était très lié à toute une équipe de jeunes géographes, dont Jean Bastier, dont Bernard Kayser, mort maintenant, Raymond Guglielmo et moi, à trois d'entre nous, il nous a fait l'insigne honneur de nous demander de participer à ce livre dans des différentes parties, l'un sur l'aménagement du territoire, l'autre sur les industries, moi sur les problèmes du sous-développement sur lequel je travaillais à cette époque-là. Et je dirais que cette expérience me laisse sur un manque, si vous voulez. Parce que Pierre Georges, c'est un des traits de ses caractères, était quelqu'un d'extrêmement discret, qui n'osait pas faire de reproches, faire de critiques à l'égard de ceux avec lesquels il travaillait. Et je savais très bien que ce que j'avais fait, les quelques 50 pages que j'avais fait, n'était pas très original, n'était pas très bonne. Mais je m'attendais à ce qu'il me dise, écoute, puisqu'on se tutoyait.
Mais
il a déjà dit, etc. Rien.
Nous allons revenir dans un instant sur Pierre Georges et bien sûr avec mes invités. Nous vous retrouvons donc dans un petit instant. Il va sans dire.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Prenons cette émission sur le grand géographe Pierre Georges avec Jean Bastier qui est à ma droite, président de la Société de géographie, et à ma gauche, j'ai Yves Lacoste qui est entre autres le directeur d'une revue qui est extrêmement importante, appréciée bien sûr à l'Académie française, qui s'appelle Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, et qui s'intitule, j'ai un numéro devant moi, qui s'intitule « Troisième trimestre 2007 », géopolitique de la langue française. Alors, cher Jean Bastier, vous vouliez nous insister, je crois, revenir sur la thèse de Pierre Georges, qui est une thèse extrêmement importante, dont on ne parle pas assez aujourd'hui.
Alors, la thèse de Pierre Georges date de 1936, je crois.
Il l'a fait avec une vitesse extraordinaire.
Il l'a fait très rapidement, mais enfin, Pierre Georges était en avance, était toujours en avance.
Thèse d'État.
Oui, absolument. À l'époque, la thèse était un monument.
La thèse secondaire, c'est la forêt de Bercy.
Parce qu'il était professeur à La Flèche. Lorsqu'il était professeur à La Flèche, il... Oui. Bon, alors nous revenons à sa thèse principale. Hein. Les plaines du Baronne.
Non, les pays du Baronne.
Les pays du Baronne, pardon. Les pays du Baronne.
D'accord. Les pays du Baronne.
Autour d'Avignon. Voilà,
le comte avenessin, oui. Voyez-vous, et un peu au nord, hein, jusqu'au Mont Ventoux, voyez.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette thèse,
alors,
professeur Bastier?
D'abord, elle n'a rien de particulier. C'est une thèse de géographie régionale, hein, sur le modèle des thèses françaises, dont les premières remontent à 1900. Faite par les premiers élèves de Vidal de la Blache, c'était une thèse typique de géographie dite régionale. Hein, le Baronne. Bon, et il a fait une thèse remarquable dans ce cadre-là, hein, de géographie régionale. Et pour vous dire quand même que la thèse d'État de l'époque, 1936, était quelque chose, c'était un monument.
L'abbé Bremond dirait un cuirassé.
Un monument. Une des premières a été celle de Martonne sur la Valachie, j'ai eu encore l'occasion de relire il n'y a pas longtemps à l'occasion d'un ouvrage que nous avons publié sur la Roumanie, qui est remarquable. C'était un monument qui a été parfaitement reconnu à sa juste valeur à l'époque, 1936. Mais
c'est
il faut savoir
qui va de la géologie.
Oui, de la géologie.
Aux juifs du comte avenessin.
Vincent, en passant
parce que Georges insiste sur le rôle des juifs
dans le rôle
du développement économique du
comte avenessin.
Moi, j'ai lu très tardivement cette thèse, et j'ai été très surpris de voir ça, car pour l'époque et par la suite, il y a fort peu de gens qui géographes qui ont parlé du rôle des Juifs.
Que les États du pape, ce sont du comte Avignon, se sont développés en grande partie grâce à la minorité juive qui était là sur place.
Donc c'est
antérieur à la Révolution française. Georges a très bien étudié ça.
Donc le lien très fort de la géographie et de l'histoire.
Ah, à l'histoire, ça, c'est fondamental, et avec le terrain. La géographie liée à l'histoire et au terrain. Parce qu'il faut savoir que Georges, à la fin de sa vie, a demandé que ses cendres soient dispersées sur le terrain de sa thèse.
Il s'est trouvé que les circonstances ont fait que j'ai accompagné les fils de Pierre Georges, on n'était pas très nombreux, sur une petite colline qui domine la vallée du Rhône, une vue magnifique. D'ailleurs, c'est nous qui avons choisi l'endroit, parce qu'il ne l'avait pas indiqué.
Exactement.
Et il y a une strate calcaire qui est en saillie. Bon. Et puis, il y a deux grosses fissures à l'angle duquel pousse un petit chêne. Et nous avons convenu qu'on allait mettre là.
Vous allez arroser le chêne.
Et
j'ai dit, on reviendra dans 2, 3, 4 ans pour voir si le chêne
a poussé davantage.
Alors, pour revenir à cette thèse,
c'est pour vous dire l'importance.
Qu'est-ce qui vous avait marqué dans cette thèse ?
Ah, mais c'était remarquable, parce que c'était une vue synthétique, d'ensemble, à tous les points de vue historiques, géographiques, physiques, humains, de cette région, tout à fait caractéristique de la multiplicité des régions françaises. Hein. Vous voyez ? Et que le géographe Pierre Georges est tenu à ce que ses cendres soient dispersées au cœur du terrain de sa thèse, c'est quand même significatif.
Alors Yves Lacoste, qu'est-ce que vous en pensez-vous de cette thèse ?
Mais il n'en parlait jamais.
Oui. Ah bon ?
Il n'en parlait jamais.
Il n'en parlait plus.
Et je confesse que cette thèse, que j'ai ignorée pendant très longtemps, parce que l'importance de Pierre Georges,
je le voyais ailleurs,
on va en parler, c'est en remontant en train d'Avignon, sur Paris, que son fils Jean-Pierre m'avait apporté, me fait cadeau de cette thèse, que je n'avais pas, et que j'ai lu en train. Hein, et j'en suis resté tout à fait étonné, admiratif. Hein. La géologie, moi je suis très géologue au départ, m'a amusé, m'a intéressé, mais de déboucher sur l'analyse du rôle politique et économique des communautés juives à Avignon, j'en suis resté absolument stupéfait.
Ah oui,
et il n'en parlait pas.
Tout à fait étonnant. Hein,
pour moi, si vous voulez, l'importance de Pierre Georges, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a apporté, par son enseignement, d'abord à la Sorbonne, hein, un regard sur deux domaines qu'aujourd'hui on s'étonnerait que les géographes n'aient pas étudiés, les villes. Et l'industrie.
Ah oui, ça c'est important.
Vidal fait une description de la France rurale, campagnarde, mais dans le tableau de la géographie de la France, qui est l'œuvre première la plus célèbre de Vidal, il y a 3 pages sur Paris.
Ah oui, tout à fait. Hein,
il y a très peu de choses. Sur l'industrie, rien. Bon, et Pierre Georges va donner une importance aux villes.
C'est le premier géographe français des villes. Ou de la ville.
Non, il y a eu avant lui.
Il y a eu, on pourrait dire qu'il y a Raoul Blanchard qui avait fait un article intéressant.
Chabot aussi, sur... Chabot.
Bon, mais si vous voulez, Pierre Georges a exercé jusque, disons, 1968. Parce que 1968, on va en dire quelques mots.
Oui.
C'est un tournant. A été entouré de toute une équipe, de toute une école de jeunes géographes qui étaient plus ou moins marxistes. Hein, puisque Pierre Georges, pendant dans les années 30, a été très influencé par le Front populaire. Il a fait partie du comité des intellectuels antifascistes alors qu'il avait été nommé dans la France de l'Ouest, qui était fort peu de gauche.
Hein. C'est vrai.
Bon, il va être membre du Parti communiste. Bon, et il va très discrètement s'en éloigner, s'en détacher dans les années 56.
Sans esclandre.
Et il va être entouré de toute une série de jeunes dont j'ai fait partie, dont Jean Bastier a fait partie, dont bien d'autres ont fait partie. Il y a une vingtaine de jeunes géographes qui vont ensuite continuer et qui sont plus ou moins marxistes.
Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'école, finalement, géographe française libérale, si j'ose dire.
Je ne dirais pas. Non, il n'y en aurait pas. Il n'y en avait pas.
Et aujourd'hui,
vous savez que le marxisme a disparu de la réflexion intellectuelle. L'autre grand géographe du moment, avec lequel j'ai été très lié aussi, c'est Jean Drèche, hein, mais qui, lui, est extrêmement lié, préoccupé par les problèmes coloniaux.
Ah oui, hein, oui.
Il a fait, c'est un des très grands géographes du marocain, comme on dit, oui, français du Maroc, oui, français etc., du Maroc, de l'Afrique noire, etc., grand géographe des déserts, et il a une influence, mais dans ce domaine-là. L'influence, le rôle de Georges est plus large, Drech n'était pas entouré d'un très grand nombre de jeunes géographes.
On a l'impression qu'il se partage un peu le terrain.
Oui.
C'est-à-dire Drech du côté du monde arabe,
voilà,
alors que Georges, c'est plutôt l'Amérique,
voilà,
l'Europe,
voilà,
etc.
Le Canada, le monde anglo-saxon, etc. Pierre-Georges et Jean Drech sont amis, mais rivaux. Ils se jalousent un peu. Leurs femmes se jalousent plus encore, hein.
Et leurs travaux, sont-ils d'une qualité égale ou pas ?
Oui, je dirais oui. La thèse de Drech est une très grande thèse sur le Haut Atlas de Marrakech. Jean Drech a fort peu publié, malheureusement.
Ah oui.
Malheureusement.
Ah oui.
Il accordait une énorme importance au dialogue avec des tas d'Arabes, de Palestiniens, de Maghrébins, de Vietnamiens, etc., qui venaient le voir un peu sous prétexte de s'occuper d'une thèse. Mais en fait, c'était Jean Drech une influence considérable. Mais, si vous voulez, Pierre-Georges va avoir autour de lui une vingtaine de jeunes géographes qui sont mes camarades, qui sont bon, et qui vont continuer. Et c'est dans le domaine de la ville...
Qui seront vraiment inspirés par ses œuvres.
Oui, mais alors que nous n'avons jamais eu, à ma connaissance, de discussion politique avec Pierre-Georges.
Ah bon, jamais.
Jamais.
Oui. Vous n'en avez pas le souvenir.
À mon souvenir, j'en ai pas.
Le souvenir. Oui, est-ce que ce marxisme influe beaucoup sur ses œuvres et donc, d'une certaine façon, peuvent amoindrir certaines idées, certains...
certainement pas.
Certains
aujourd'hui...
Jugements.
Considérer qu'il y a l'influence d'un régime capitaliste, d'un régime socialiste, de tous les phénomènes de mondialisation, Pierre-Georges en parle, aujourd'hui c'est la réflexion de tout le monde.
Oui, oui,
hein,
tout à fait.
Ça paraissait surprenant à l'époque, c'est devenu quelque chose...
Je crois que Jean Bastiat a quelque chose à dire.
Oui, je voudrais resituer cette évolution de Pierre-Georges que nous avons bien connue, dans l'ensemble de la géographie humaine française.
Oui.
Alors, il y avait un géographe fort réputé à l'époque, un peu plus âgé que Pierre-Georges, c'était Albert de Mangeon.
Oui, qui est mort en 1940.
Qui avait beaucoup écrit dans l'entre-deux-guerres. Il était un peu plus âgé que Georges, dont il avait une petite avance en matière de publication et de renommée internationale sur Pierre-Georges. Mais hélas, Albert de Mangeon est mort le jour de l'entrée des Allemands dans Paris, oui, fin juin 40.
Ce jour même.
Sans doute marqué par le...
On se demande même s'il ne s'est pas suicidé du fait de l'entrée des Allemands.
Oui, oui.
Il n'était pas à la retraite, donc il était en pleine activité.
Oui, oui.
Et si de Mangeon avait survécu, évidemment, il aurait continué à tenir sa place à côté de Pierre-Georges.
Était un géographe aussi d'inspiration marxiste.
Non, pas du tout. C'est pour cela que je ne dis pas du tout.
Par exemple, avec des préoccupations politiques, lui aussi.
En 1920, de Mangeon écrit un ouvrage, Le déclin de l'Europe.
Oui.
Le déclin de l'Europe du fait de la Première Guerre mondiale.
Donc déjà, un esprit assez visionnaire.
Oui, très visionnaire, très synthétique.
L'influence de Mangeon a été surclassée par Emmanuel de Martonne, qui est le gendre de Vidal, de la Blache, et qui va jouer un rôle prépondérant.
Je m'arrête là pour la deuxième partie de notre émission. Il nous reste la troisième partie. Et donc, nous allons retrouver les auditeurs dans quelques instants. Merci, à tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Thank you. suis très heureux aujourd'hui de me retrouver avec le professeur et d'accueillir surtout le professeur Jean Bastier, président de la Société de Géographie, et monsieur Yves Lacoste, qui, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète avec grand plaisir, est le directeur de la revue de géographie et de géopolitique qui s'appelle Hérodote, qui existe depuis 1976. Et je vous conseille le numéro 126, qui est paru le troisième trimestre 2007, et qui s'intitule « Géopolitique de la langue française ». Alors, nous parlons ensemble avec mes deux invités de ce formidable géographe qui s'appelle Pierre Georges, né en 1909 et qui, hélas, est décédé en 2006, mais il y a un moment pour tout, et il va sans dire. Et je rappelle que cet homme tout à fait exceptionnel était agrégé à 21 ans, docteur à 26, professeur d'université à 37 ans, et en Sorbonne à 39 ans, ce qui pour l'époque est quand même pas mal du tout, membre de l'Institut Académie des sciences morales et politiques à 71 ans, donc nous étions en 1980, sa carrière fut rapide pour l'époque, sa production considérable, plus de 100 livres, et ses activités plus grandes encore. Je crois, cher Jean Bastier, que vous vouliez parler d'un de ses livres, qui s'appelle, son dernier livre d'ailleurs, si je ne m'abuse, qui s'appelle, je crois, vous m'avez dit, Le temps des collines. Ah, le temps des collines, c'est
qui
ça.
Qui est paru à Alors, la table ronde en 1995.
Ah, la table ronde, donc le temps des collines, la table ronde, 1995. Alors, à vous la parole.
Alors, j'estime qu'avec cet ouvrage, il renoue en quelque sorte avec sa thèse.
Mais oui, c'est les collines du Baronne.
Voilà, c'est les collines, principalement, c'est les collines du Baronne et les collines du monde entier à travers celles du Baronne.
Ce n'est qu'à nous revoir, bon, alors.
Mais non, il a 95, il a quand même... Il était né en 1909. Vous voyez l'âge qu'il avait.
Bien sûr.
Bon,
c'est son fils, Jean-Pierre, qui lui a fait écrire.
Ah bon, oui. Et il est mort quelques années après. Oui. Je rappelle que notre société de géographie lui a donné son grand prix en l'an 2000. Nous avons voulu, en l'an 2000, donner notre grand prix à Pierre Georges.
Tout à fait.
Nonobstant les différences qu'il pouvait y avoir entre lui et nous.
Avec un éloge prononcé par le professeur Alice Saunier-Saïté, ancien ministre, membre
des universités, membre de la Société Géographie, qui avait été l'élève de Pierre Georges, qui avait eu un parcours tout à fait différent de celui de Pierre Georges, qui néanmoins en a fait un éloge. Un éloge de celui qui avait été son
maître. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans le temps des collines ?
Eh bien, le temps des collines, c'est qu'évidemment, à l'époque où la géographie quantitative, théorique, est sur le point d'envahir...
Elle a déjà envahi, elle est déjà sur le déclin.
Oui, mais enfin, elle avait envahi la société, le monde géographique, la pensée géographique, l'univers géographique. Eh bien, Pierre Georges a eu le courage, mais enfin, il pouvait se le permettre, et vu l'âge qu'il avait, d'expliquer à quelle géographie il tenait par-dessus tout à la veille de disparaître.
Donc c'est assez émouvant.
C'est très émouvant.
C'est très émouvant. Les plaines du Baronne ouvrent sa carrière scientifique, d'auteur d'ouvrage, avec cette thèse qu'il a soutenue très jeune. Et le temps des collines vient clore ce parcours. Oui. Et le temps des collines, sont rédigés tout à fait dans le même esprit que sa thèse.
Yves Lacoste, qu'est-ce que vous en pensez de ce temps des collines ?
Oh, ben c'est le
enfin, dans son œuvre, quelle est la place ?
Enfin, Pierre Georges sort de la réserve, peu coincé.
Ah, oui. Il s'épanche.
De temps en temps. Je me souviens d'un... C'était un homme très sensible, en fait, mais qui se défendait. Et qui a été élevé par une mère très contraignante, etc., qui lui a imposé un certain nombre de choses. Je l'ai appris plus
tard. C'est un personnage qui était empathique. C'est-à-dire, est-ce qu'on était attiré par lui ou, au contraire, il avait un peu tendance quand même à vous tenir à distance ?
Non, c'est un homme avec un physique un peu ingrat.
Ah oui.
Il a perdu un œil. Pendant très longtemps, cet œil n'a pas été remplacé, vous voyez.
Donc oui, ça fait...
Tout ça, c'est... Bon, oui. Et puis... mais c'était
c'est
quelqu'un...
disgracieux, c'est un peu disgracieux, oui.
Mais c'est quelqu'un qui était, en vérité, d'une grande sensibilité. Voilà. D'une grande sensibilité, mais qui ne voulait pas montrer.
Qui était attachant malgré lui, finalement.
Ah oui, moi, je suis très attaché. C'est lui qui m'a appris à faire des rédactions. Quoi.
Alors, dites-moi, dites-moi, quand on regarde tout de même, cher professeur, qui est avec moi, à mes côtés, quand on regarde une partie de ses publications, c'est quand même très impressionnant, parce que je lis là rapidement, tout de même pour rappeler à nos auditeurs qu'il faut relire Pierre-Georges, « Géographie sociale du monde, 1945 ». Je vois au passage, 7e édition, 1970.
Oui, mais c'est les que sais-je.
L'économie de l'URSS.
C'est les que sais-je.
L'économie des États-Unis.
A joué un rôle très important en publiant la géographie de l'URSS, qui est un gros ouvrage, qui était le premier ouvrage, qui vient du fait qu'il ne traduit pas tant ses engagements politiques, encore qu'il passe sous silence toute une série de problèmes dont on commençait à se douter, mais il a dirigé longtemps, et c'est un rôle très important qu'il a eu au plan mondial, il a dirigé la bibliographie géographique internationale. Et c'est parce que commençait à être publié un certain nombre d'articles et de livres en russe sur la géographie de l'Union soviétique. Il a appris le russe pour en rendre compte, pour en faire des comptes rendus. C'est de là que c'est venu.
Ah oui, d'accord.
Et vous voyez, ça a renforcé l'image de Pierre-Georges communiste jusque dans les années 60. Mais dans les années 60, il se passe un événement dont on va célébrer le 40e anniversaire, c'est les événements de mai 68. Et dans l'histoire, la bibliographie de Pierre-Georges, c'est une date importante parce qu'il ne comprend absolument pas.
Il ne comprend pas le phénomène de mai 68.
Pas du tout. Il est complètement traumatisé. Il faisait une série de conférences au Canada. J'ai été le cueillir à l'avion, le chercher à l'avion, à Orly. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. etc.
Alors, il était dépassé par
complètement.
Et
il a pris ça très mal. Et sa femme plus encore.
Qu'est-ce qui le choquait, faut
l'agitation, les cris, les désordres, etc.
Oui,
c'est quelqu'un de très réservé. Bon, et comme la plupart...
Il avait l'impression d'assister à la destruction de l'université ou pas?
Oui, évidemment, parce qu'il y avait des gens qui proclamaient ouvertement. C'était du discours, évidemment. Et là, je dois dire que à partir de 68, il continue d'écrire des choses, mais ce n'est plus le dynamisme antérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure...
Pourtant, il est encore assez jeune, parce que 68, ça lui fait 59 ans.
68, on va célébrer.
En
1909. Donc ça fait 59 ans.
Ben oui, c'est pas...
Donc c'est pas très âgé.
Le point, moi, à mon avis, le point culminant, c'est la géographie active.
Ah oui.
Et à partir de là, c'est des choses intéressantes. C'est des choses, bien sûr, intéressantes. Mais... qui n'ont pas le punch, si vous voulez, n'apporte pas ce qu'il a apporté jusque-là.
Comment est-il maintenant, je crois que ça sera un peu dans cette dernière partie de notre émission, comment est-il perçu à l'étranger, justement, à cette époque?
À l'étranger, très révéré.
Très révéré.
Révéré encore.
Au Canada, notamment.
Dans la géographie française, il n'est pas compris. Et un certain nombre de gens que j'estime, par ailleurs, considèrent que Pierre-Georges est un vieux géographe communiste, qui n'a rien apporté, etc.
Ah oui, à ce point-là, c'est quand même assez péremptoire.
c'est très dommage. C'est très dommage.
Et c'est curieux parce que dans nos milieux intellectuels, dans nos milieux intellectuels, la gauche est tout de même dominante. Alors c'est ça qui est assez curieux.
La géographie a eu une période de gauche très très influencée par le marxisme, etc.
Oui.
Et puis par Balancier, passé à droite.
Ah bon? Alors vous voulez dire quelque chose, Jean Bastier?
Oui, je voulais vous dire que. Donc je reviens au temps des collines, parce que c'est son dernier ouvrage, 1995. Il avait déjà 89 ans. Quand il a donc à 89 ans, on écrit un ouvrage qui est un des derniers que l'on ait l'occasion d'écrire.
Bien sûr.
Et qui surtout, si cet ouvrage renoue avec le premier. Qui était la thèse sur le baron dont vous avez besoin. Oui. Entre la thèse sur le baron et le temps, parce qu'il s'agit évidemment des collines du monde entier, mais enfin, il pense d'abord à celle du baron, évidemment. Donc il y a un lien entre la thèse et le temps des collines. Le temps des collines alors, va tout à fait à l'encontre des tendances, disons, à la mode de la géographie de 1995. C'était la géographie quantitative, la géographie théorique, la géographie en chambre.
C'est la géographie humaine.
Et qui va, non, mais qui va sur le terrain, qui observe les choses, les hommes sur le terrain. Alors qu'à pendant, à cette époque-là, prédominait la géographie statistique, théorique mathématique, philosophique, etc.
C'est très important,
vous voyez, et là, c'était l'anti-géographie de Pierre-Georges.
Vous vouliez dire quelque chose.
Oui, voilà. Je voulais dire que Pierre-Georges est quelqu'un de cultivé, très cultivé.
Oui, aussi, bon. Oui.
Et que le temps des collines, je pense que ça vient... Du titre du livre de Jean Giono, Collines.
Ah,
et pourquoi
ça,
je dis ça parce que quand j'ai 15 ans ou 16 ans, Pierre-Georges, en dehors de tout, je n'étais pas encore à l'université, hein, bon, m'a donné à lire Collines. Et il m'a dit, tu devrais lire ça.
Ah, il vous a donné à lire Collines de Jean Giono.
Oui,
qui est un de nos grands écrivains du XXe siècle. Hein.
Et je pense que le temps des collines, c'est un peu le rappel de ça. Bon, pour
ça, c'est très beau ce que vous dites. Parce que n'oublions pas quand même que Giono, entre autres, aussi a écrit le livre Les Vraies Richesses. Il a écrit beaucoup de très beaux livres.
Hein, Giono,
Que ma joie demeure, qui est un livre admirable.
Dans l'air de ce baron de la Provence.
Oui, c'est vrai.
Qui est très cher à Pierre-Georges.
Qui était très cher.
Quand vous me posiez la question, quelle est l'influence de Pierre-Georges, je dis que pour l'instant, c'est plus pas grand-chose. Ce que je regrette beaucoup, mais que ça reviendra, ça va revenir.
Ah bon, vous voyez,
nous
sommes là pour d'ailleurs.
Parce que, d'abord, je remercie beaucoup l'Académie. Bon, je pense qu'elle joue son rôle, mais je pense que les géographes sont en train, après cet épisode mathématique, théoriciste, etc., redécouvrir la richesse de leur histoire. La richesse de leur histoire. Moi, je leur ai raconté avec Hérodote ce qui existe depuis 25 siècles. Hein. Et ça veut dire qu'il faut assumer ce rôle des géographes. Et, par exemple, à l'heure actuelle, on dit pique-pendre sur la colonisation. Hein. On est dans l'époque post-coloniale, etc.
Sort un tout petit peu, mais disons que...
Dans le discours. Si
dans
on prenait chez les intellectuels, on n'a jamais tant parlé de la colonisation pour dire que c'est quelque chose d'affreux, d'épouvantable, etc., etc., etc. Bon.
D'où la repentance.
Etc.
Et d'ailleurs, dans votre géopolitique de la langue française, il y a un article sur l'Algérie qui met quand même les choses au point, qui est tout à fait intéressant et qui montre que il y a un triangle entre les Français, les Kabyles et les Arabes qui est tout à fait étonnant et que l'on ne soupçonne pas toujours. Hein, Donc c'est très important.
Et je pense que la géographie française, elle doit s'assumer comme ayant joué son rôle dans l'expansion coloniale. Hein, là, on a été l'outil. Mais en même temps, elle laisse à tous les intellectuels, je ne veux pas prendre la formule grandiloquente des peuples, un héritage au point de vue de l'outillage intellectuel dont ils vont avoir de plus en plus besoin. Parce que dans les pays du tiers-monde, dont la population a triplé depuis les indépendances, eh bien, cette augmentation formidable de population, je ne veux pas dire que c'est une catastrophe, oblige à toute une réorganisation de l'espace et la mise en valeur des ressources.
J'ai reçu aujourd'hui avec un immense plaisir, et évidemment il faudrait continuer ce magnifique entretien, Jean Bastier, président de la Société de Géographie, qui évidemment est un homme d'un dynamisme exceptionnel. Je rappelle que la Société de Géographie se trouve au 184 boulevard Saint-Germain, Paris 75-0016. Alors je rappelle le numéro de téléphone 01 45 48 54 62.
Et qui est la plus ancienne société de géographie au monde.
Oui, tout à fait. Et j'ai reçu à ma gauche Yves Lacoste, le directeur de cette magnifique revue qui s'appelle Hérodote, géopolitique de la langue française. Et fondateur, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, en 1976. Merci beaucoup et bonne journée, chers auditeurs.